Bonjour à tous. Premier jour de notre série consacrée à l'histoire du capitalisme français. L'aventure commence au 19e siècle et elle s'accélère lors des 30 Glorieuses quand les grandes entreprises tricolores se transforment en véritables multinationales. Le CAC 40 n'a été créé qu'en 1987, mais les firmes qui le composent nous racontent deux siècles d'essor économique. Demain, nous reviendrons sur l'ascension de Danone, créée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Puis nous nous intéresserons à la BNP et à ses relations tourmentée avec l'État français. Mais d'abord, embarquons ensemble jusqu'à 15h à bord des locomotives Alstom. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour évoquer la mémoire industrielle d'Alstom, nous avons le plaisir d'accueillir à distance deux invités, Patrick Fridançon, historien, directeur d'études à l'EHESS, et Pierre Lamarre, professeur d'histoire industrielle à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. À 14h50, les nouvelles de l'écho vous seront présentées par Xavier Martinet. Il reviendra sur le vaste accord commercial signé entre 15 pays de la région Asie-Pacifique. Patrick Fridançon et Pierre Lamarre, bonjour.
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 Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors l'histoire commence le 19 juillet 1870, lorsque la France entre en guerre avec la Prusse. L'empereur Napoléon III s'adresse alors au peuple français.
Il y a dans la vie des peuples des moments solennels, où l'honneur national violemment excité s'impose comme une force irrésistible, domine tous les intérêts et prend seul en main la direction des destinées de la patrie. Une de ces heures décisives vient de sonner pour la France. La Prusse, à qui nous avons témoigné pendant et depuis la guerre de 1860, les dispositions les plus conciliantes, n'a tenu aucun compte de notre bon vouloir et de notre longanimité. Lancée dans une voie d'envahissement, elle a éveillé toutes les défiances, nécessité partout, désarmement exagéré et fait de l'Europe un camp où règne l'incertitude et la crainte du lendemain. En présence des nouvelles prétentions de la Prusse, nos réclamations se sont fait entendre. Elles ont été éludées et suivies de procédés dédaigneux. Notre pays en a ressenti une profonde irritation, et aussitôt, un cri de guerre a retenti d'un bout de la France à l'autre. Il ne nous reste plus qu'à confier nos destinées au sort des armées.
La proclamation de l'empereur au peuple français, lue par Tatiana Werner dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est au lendemain de la défaite française que naît l'entreprise qui deviendra le groupe Alstom, Pierre Lamarre.
Absolument. Le traité de Francfort va séparer le sud du Haut-Rhin et laisser un petit territoire autour de Belfort dans la partie française. Ce qui fera que du côté mulhousien, notamment l'Alsacienne, la Société Alsacienne de Construction Mécanique, va décider de franchir la frontière et par volonté de ne pas perdre le marché français, puisque désormais, ses activités à Mulhouse et à Grafenstaden seront dans l'Empire allemand.
Donc une antenne est créée à Belfort sur le sol français pour échapper à la tutelle allemande. Quelles sont les activités, Patrick Fridançon, qui sont développées sur ce nouveau site de Belfort à la fin du 19e siècle ?
Foncièrement, ce sont des activités qui tournent autour des matériels de transport et de construction mécanique. Et c'est l'occasion pour nous de souligner d'une part l'héritage alsacien auquel faisait allusion Pierre Lamarre, c'est-à-dire l'héritage d'un patronat et d'une main-d'œuvre qui était extraordinairement qualifiée. C'est comme ça qu'était née la construction de locomotives à Mulhouse dont Pierre Lamarre parlait. Et ça va rester une caractéristique de l'histoire d'Alstom. C'est une entreprise intensive en capital, reposant sur le travail conjoint d'ingénieurs très qualifiés et de personnel ouvrier et de maîtrise très qualifié. Donc là, on n'est pas du tout dans le capitalisme de masse et de grande consommation, on est dans son autre versant, c'est-à-dire le versant de l'équipement lourd ou de ce que l'historien américain Philip Scranton appelle le capitalisme de spécialité, c'est-à-dire de la haute technologie produite en petite quantité ou en petite série.
Quelles sont alors, Pierre Lamar, les conditions de travail dans ce site de Belfort qui va construire notamment des câbles électriques dont l'allemand Siemens avait alors le quasi-monopole?
Oui, alors effectivement, l'entreprise de Belfort va très vite se distinguer par sa modernité, notamment dans les productions de locomotives, hein, puisque très rapidement, on va abandonner à Belfort la locomotion vapeur qui va être rapatriée à Kapfenstaden et on va se lancer dans la locomotive électrique, ceci très rapidement à partir des années 1920. Donc pour répondre directement à votre question, et comme l'a souligné Patrick Canancion, on a là une élite ouvrière, on a des chaudronniers, on a des rifteurs, on a un savoir-faire qui va très vite se développer sur d'énormes machines-outils, sur un gigantisme du produit par rapport à l'industrie traditionnelle. Donc il y a véritablement à Belfort, dès le départ, un vrai savoir-faire tourné vers la modernité technologique.
La modernité technologique et en même temps c'est aussi le développement du textile dans le bassin de l'Est français qui favorise l'essor de cette société alsacienne de construction mécanique, Patrick Fridançon, notamment à cause de la demande en machines de tissage.
Demande en machines de tissage assurément, mais d'une certaine manière c'est la complémentarité entre le textile qui avait été la base originelle de l'industrialisation française et la mécanique. Mais on ne peut pas se réduire au textile. Il y a le développement du réseau ferré, sa modernisation et le fait que cette entreprise, elle devient une entreprise à double versant, un versant français et un versant allemand, si j'ose dire par construction. Et donc, elle va se retrouver, comme d'autres entreprises ayant de la haute technologie, à viser d'un côté les grandes villes, c'est une entreprise aussi urbaine, et de l'autre côté à viser l'international.
Alors à la fois, elle est à la fois française et allemande. Il faut attendre la victoire française en 1918 pour que cette société alsacienne de construction mécanique, l'ancêtre d'Alstom, Pierre Lamar, récupère ses usines en Alsace. Et c'est l'occasion de dire aussi que la Première Guerre mondiale est un conflit qui va obliger cette société à se transformer, notamment pour fabriquer des armements.
Oui, alors, une toute petite précision auparavant, la société alsacienne de construction mécanique de Belfort devient autonome en 1913. On la dote d'un capital de 20 millions de francs et elle réintègre rapidement, effectivement, le giron après 1918, mais il y a une indépendance, on va dire, juridique du site de Belfort à partir de 1913. Et ensuite, bien évidemment, pendant le premier conflit mondial, eh bien, l'entreprise va se mettre au service des productions de guerre. Quelques chiffres, hein, 4 700 000 obus vont sortir des usines de Belfort. On va 120 000 kilomètres de câbles télégraphiques, 7 000 alternateurs, des turbocompresseurs pour les moteurs d'avion, bref, une machine de guerre au service de la guerre de 14.
Est-ce qu'il faut voir dans cette indépendance pendant ces années de la Première Guerre mondiale du site de Belfort, Patrick Fridançon, une avant-garde en quelque sorte de cette place particulière que va occuper ce site de Belfort dans l'histoire d'Alstom?
Ça n'est pas complètement ce que je pourrais dire. Parce qu'il y a une mobilisation industrielle, il y a l'ouverture de ce que j'ai appelé un autre front à côté du front militaire, qui est celui de la mobilisation des femmes et des hommes, des ingénieurs, des banquiers et des commerçants, pour que, d'une part, l'économie civile tourne et qu'elle soit complémentairement au service de l'armement. Donc, il y a des raisons qui sont en partie des raisons géographiques évidentes à la contribution particulière de Belfort, comme l'a rappelé Pierre Lamarre, et qui tiennent aussi à la ligne de front. Mais finalement, on peut dire que entre des branches du capitalisme français qui ont été épuisées pendant la Première Guerre mondiale et d'autres pour lesquels la guerre a été l'occasion d'un pas en avant, on peut dire que l'Alsacienne fait partie des branches qui ont fait un pas en avant.
Alors, on peut citer la date de 1971 comme date d'origine de la société, 1871 comme date d'origine de la société Alstom, et on peut aussi citer la date de 1928, Pierre Lamarre, puisque c'est à ce moment-là que la société alsacienne décide de fusionner une partie de ses activités avec la filiale française de General Electric, la compagnie française Thomson Houston. C'est une fusion qui lui donne accès aux technologies américaines, c'est ça le but, l'objectif de cette fusion?
Alors, effectivement, la SACM et la compagnie française Thomson Houston vont créer une filiale à 50% chacune, qui va devenir en réalité la société générale de construction électrique et mécanique, dit Alstom, qui est la contraction de Als pour Alsacienne et Thomson Houston. Et très rapidement, effectivement, l'idée, c'est d'acquérir, on va dire, des technologies qui sont développées aux États-Unis, mais cela, ça, c'est dans l'habitus. Un petit peu le General Electric et va souvent croiser Alstom au cours de son histoire. Différentes dates montrent qu'à certains moments de l'histoire d'Alstom, eh bien, il y a une complémentarité et une coopération des technologies américaines avec le tissu industriel français Belfortin.
Ce qui est intéressant à souligner, Patrick Fridançon, c'est comment Alstom grossit au fur et à mesure, soit en rachetant ses concurrents, soit en fusionnant avec d'autres entreprises.
Avant de répondre à votre question, je veux regarder le côté Thomson de cette entreprise Alstom. Parce que Thomson n'a pas été très longtemps une filiale d'une entreprise américaine. Dès le début des années 1900, les capitaux français sont majoritaires. Et Thomson apporte à la corbeille de la mariée deux séries de choses. Il apporte des marchés, et les marchés, c'est ceux de la traction électrique ferroviaire, en particulier ceux du tramway. Thomson apporte aussi une expertise sur les moteurs électriques. Et d'autre part, c'est Thomson qui apporte l'idée même d'Alstom, en ce sens que c'est l'arrivée à Thomson d'un polytechnicien ingénieur du corps des ponts qui est Auguste de Teuf, lequel pantoufle ainsi dans l'industrie privée et s'en va passer en 1925, 6 semaines aux États-Unis, d'où il ressort l'idée qu'il faut que la France se mette encore davantage au diapason américain, même si, comme vous l'avez indiqué, comme Pierre Lamarre l'a souligné, ça n'est en aucune façon une entreprise qui serait un pur exemple d'américanisation, bien au contraire. Mais il a aussi de l'idée de son séjour américain, deux thèmes. Le premier, c'est effectivement qu'il faut grossir pour atteindre une taille critique sur ces marchés. Et ces marchés sont des marchés de produits qui exigent énormément de capitaux.
D'où les nombreux rachats par Alstom dans les années 30.
Et deuxièmement, dans les années 30, et puis ça continuera après lui et après la guerre, Et deuxièmement, il a aussi l'idée que cette entreprise doit avoir une certaine autonomie. Donc, Alstom, c'est une entreprise qu'on appellerait aujourd'hui une co-entreprise, c'est-à-dire qu'elle a assurément un administrateur délégué qui vient de Thomson, qui est Auguste de Teuf lui-même, mais l'entreprise n'est propriétaire de rien, c'est-à-dire que les locaux ou les machines sont la propriété de l'Alsacienne ou de Thomson. Alors ça explique qu'il y ait plein d'usines en France qui sont celles qui ont été données par Thomson, Saint-Ouen, Le Courbe, Jarville, Colombes, Lesquin et Saint-Ouen. Et de l'autre côté, il y a évidemment Belfort.
Et
Mais ça veut
c'est
dire
une
ça
fusion qui fonctionne, Patrick Fridançon, dans le sens où c'est grâce à la locomotive électrique que qu'Alstom, le nouvellement baptisé Alstom, va connaître un essor sans précédent dans l'entre-deux-guerres.
Je confirme. Ce que je dis simplement, c'est que c'est une coentreprise, c'est-à-dire que toutes les décisions importantes doivent être prises en commun accord entre les deux maisons mères. Et c'est une situation qui existe bien entendu aujourd'hui pour des quantités de domaines, mais dans le domaine industriel français, c'est pas tout à fait une première, mais il est quand même extraordinaire que de 1928 à 1970, tout ça ait fonctionné si bien. Donc, ces deux groupes ayant des traditions différentes, mais ayant chacun leur polytechnicien, pas seulement eux, mais les polytechniciens dont une partie vont être des XPON, ce sont deux groupes qui vont s'entendre pour aller à la conquête de marchés qui sont soit des entreprises, soit des collectivités, selon les statuts des entreprises qui ont besoin de leurs produits.
Et de plus en plus, après la Seconde Guerre mondiale, des marchés internationaux. Je voudrais vous faire entendre à ce propos une interview d'un directeur de la traction chez Alstom, une interview de 1967.
Les sigles BB et CC ne signifient pas, comme on pourrait le croire, les initiales de Brigitte Bardot ou de Claudia Cardinal. Il s'agit simplement de définir le nombre d'essieux que comporte la locomotive. Une BB comporte 4 essieux et une CC en comporte 6.
Combien de personnes travaillent à la traction?
Pour l'ensemble de la société, il faut compter à peu près 3 000 personnes qui concourent à la fabrication des locomotives électriques, des diesels électriques. À Belfort, il y a 1 300 personnes. À l'usine de Tarbes, il y en a à peu près autant. Toutes ces personnes participent à des degrés divers à la réalisation des machines, les uns discutant avec le client pour définir la locomotive, les autres faisant les études techniques et définissant les plans des machines. Et ensuite, dans les usines, les différentes professions, soudeurs, chaudronniers, câbleurs, essayeurs, participent à la réalisation des machines qui finalement partent sur leur propre route Belfort.
Quels sont vos clients et combien de locaux fabriquez-vous en une année?
En moyenne, nous fabriquons entre 130 et 170 locomotives par an. Nous avons à peu près la moitié de cette production qui est destinée à la SNCF. L'autre moitié part à peu près dans tous les pays du monde. À l'heure actuelle, par exemple, nous travaillons pour la Grèce, pour la Tunisie, pour Madagascar, pour l'Éthiopie. L'année prochaine, il est vraisemblable que nous travaillerons également pour la Colombie et peut-être pour quelques pays d'Asie.
Ce que l'on comprend avec cette archive de 1967, Pierre Lamarre, c'est que l'internationalisation d'Alstom s'accélère après la Deuxième Guerre mondiale. C'est la période des grands projets industriels soutenus par De Gaulle.
Alors, c'est la période des grands projets industriels. Vous avez interviewé certainement un des directeurs ou des grands cadres de Belfort à l'époque. Moi, je me souviens avoir vu ce globe et sur ce globe coloré toutes les motrices aux couleurs des différentes entreprises qui avaient commandé ces locomotives. Mais l'internationalisation, ce n'est pas uniquement sur les locomotives. Il y a véritablement une exportation de tout le matériel électrique. Si je regarde les chiffres qui avaient été au moment où De Gaulle visite le site de Belfort en 1959, Alstom fait des panneaux, et sur les 150 alternateurs qu'avait produit le site de Belfort, 70 étaient partis à l'étranger. C'était les mêmes pour les chaudières, la moitié de la production, les turbines vapeur, on avait 320 turbines vapeur qui ont été construites, et plus d'une centaine étaient parties à l'international. Donc on est là dans une dimension très forte. Alors il faudrait peut-être à ce moment-là souligner le rôle qu'ont eu les missions de productivité, notamment à partir de 1947 et le plan Marshall. Il y a un rapprochement très très fort des ingénieurs, et pas seulement que les ingénieurs, les techniciens, voire des ouvriers qualifiés, qu'on envoie aux États-Unis à travers ces missions de productivité. On va en dénombrer quarantaine à peu près, qui vont, où les cadres, les techniciens passent 4 à 6 semaines aux États-Unis, à Schenectady, à Buffalo, et travaillent véritablement à la modernité, non seulement de l'outillage, mais des nouvelles méthodes mises en place. Mmh. On est véritablement là au début des Trente Glorieuses, avec une modernité que Belfort va s'emparer pour finalement dispatcher ses produits dans le monde entier.
Et cela, ces innovations nous amènent jusqu'à ce record du 28 mars 1955 où la locomotive CC7017 atteint les 331 km/h dans les Landes, Patrick Fridançon. Ce qui fait la force véritablement d'Alstom, de l'ancienne SASEM, c'est cette capacité à innover.
Oui, je veux ajouter deux éléments sur ce point. Le premier, c'est que les séjours aux États-Unis dans les locaux de General Electric, auxquels Pierre Lamar vient de faire allusion, ça fait partie du patrimoine qui vient de Thomson, parce qu'il y a un accord qui va durer de 1919 à 1969, qui est un accord de partage de technologie qui a été signé entre General Electric et le président de Thomson juste après la Première Guerre mondiale. Donc, ils sont d'une certaine manière chez eux à Schenectady, un peu plus avec les missions de productivité, mais ils l'étaient avant et ils le resteront après. Et la deuxième chose, c'est le partage entre deux métiers. Il y a le métier de transport, et c'est à ça que répond le son que l'on vient d'entendre. Et dans ce rôle des transports, il y a certainement une place à faire à la SNCF, et en particulier à son chef historique de l'époque, Louis Armand, qui va être un des défenseurs du passage à la traction électrique. Et de l'autre côté, et Pierre Lamar y a fait allusion avec, en parlant notamment des alternateurs, il y a l'autre métier que les transports, qui est le métier énergie. Et ces deux métiers, c'est au fond les deux pôles de l'Alstom, si je puis dire, moderne, et ils sont extraordinairement exigeants en personnel, en capitaux et en savoir et en savoir-faire. Et ça explique qu'à partir de 1965, Alstom conclut des accords avec le grand rival de Thomson, qui est la Compagnie Générale d'Électricité. Et il y a donc des sociétés communes, trois sociétés communes créées en 1965, et ça va être une des motivations du fait que, pressé par des besoins d'argent, par des choix de relais de croissance, et par la pression aussi de la Banque de Paris et des Pays-Bas, c'est-à-dire l'un des deux ancêtres de la BNP dont vous allez parler cette semaine.
Absolument, demain.
Ça va être une des raisons pour lesquelles Thomson, qui est dirigé à l'époque, c'est la seule période, par un entrepreneur autodidacte, Paul Richard, va se mettre à parler avec un des polytechniciens qui sont au fil de cette histoire, c'est-à-dire Ambroise Roux de la Compagnie Générale d'Électricité. Et en 1969, il va se produire entre ce qui a été appelé dès cette époque le Yalta de l'électronique, c'est-à-dire que Thomson va céder sa part dans Alstom, la propriété des biens qui étaient dans Alstom, plus un certain nombre d'usines proprement Thomson à la Compagnie Générale d'Électricité. Mmh. Et en échange, la Compagnie Générale d'Électricité va donner son électroménager à Thomson et surtout beaucoup d'argent.
Alors c'est un moment important effectivement, Patrick Fridançon, et pour vous le fait que la Compagnie Générale d'Électricité avale ainsi Alstom, c'est marque le début des problèmes pour Alstom. On va en reparler dans la deuxième partie de l'émission, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête quelques instants sur les dirigeants d'Alstom qui ont marqué l'histoire de l'entreprise. Vous avez cité tout à l'heure, Patrick Fridançon, Auguste De Teuf, qu'on considère comme le fondateur d'Alstom. Pierre Lamarre, ce qu'il caractérise, Auguste De Teuf, qui est donc polytechnicien, c'est son souci de l'intérêt public, c'est quelqu'un qui veut avant tout promouvoir l'industrie nationale.
Oui, mais c'est surtout une méthodologie de gestion de l'entreprise, une rationalité des fonctions administratives, des fonctions productives. Il y a là véritablement chez De Teuf une vision moderne de l'ensemble de l'entreprise qui va de la production à la vente. Il y a chez De Teuf une vision moderne qu'il va, comme l'a dit Patrick Fridançon, De Teuf a passé un séjour aux États-Unis, ça lui a permis, on va dire, d'ouvrir les horizons et de sortir d'un traditionnalisme, entre guillemets, si les industriels peuvent être traditionnalistes, de sortir et d'impulser véritablement une autre vision de la gestion de l'entreprise.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'intéresse au syndicalisme ouvrier, qui est pour lui un facteur de progrès pour l'économie. Patrick Fridançon, Auguste De Teuf joue un rôle dans le prestige qui est attaché au fait de travailler chez Alstom.
Alors, on peut dire deux choses. On peut dire que De Teuf part de l'idée qu'il faut rénover non seulement l'industrie, mais rénover le libéralisme. Et ça l'amène à nouer des relations avec les organisations syndicales. Ça l'amène à accueillir quelques mois dans sa principale usine une jeune philosophe qui veut travailler en usine qui s'appelle Simone Veil. Ça l'amène en 1938 à se faire le porte-parole du modèle suédois, c'est-à-dire de relations pacifiées entre le syndicalisme patronal et les syndicats ouvriers. Et la même année 1938, il fait partie de ce qu'on appelle le colloque Lippmann, c'est-à-dire l'accueil en France d'un grand journaliste américain, et qui est la naissance du libéralisme moderne. Mais là-dessus, il faut bien distinguer De Teuf, lui, c'est un libéralisme social avec l'État, et d'autres, dont Friedrich Hayek, l'économiste autrichien qui est présent là, eux, c'est un libéralisme sans l'État. Et on peut voir là-dedans, d'un côté, le fait que De Teuf est un ancien ingénieur d'État, un ancien haut fonctionnaire. On peut voir aussi là-dedans le fait qu'il a l'habitude de marcher dans lesquels les collectivités publiques peuvent être un type de client. Mais il y a aussi l'idée que, à travers la crise des années 30, à travers les conflits sociaux du Front populaire, il part de l'idée qu'il faut rebâtir une société française qui soit une société où l'État joue un rôle en contrepoint de partenaires sociaux qui soit libre. Mmh. Et donc, on rejoint ici l'idée de Pierre Lamarre, c'est dans ce domaine-là aussi un modernisateur.
Un modernisateur, tout comme son successeur, dont vous avez également cité le nom, Patrick Fridançon, il s'agit d'Ambroise de Roux, qui dirige la Compagnie Générale d'Électricité lorsque celle-ci avale Alstom à la fin des années 60. Je vous propose de l'écouter dans une archive de 1973 de la Radio-Télévision française.
Depuis le début de l'année, tout le monde se préoccupe du fait que les investissements en France sont trop faibles. Ils sont peut-être un peu plus forts en 73 qu'on l'avait pensé au début de l'année, ils restent faibles. La meilleure preuve, c'est que les statistiques officielles montrent qu'actuellement, la moitié de l'industrie française travaille à sa capacité maximum de production. Donc nous pensons que l'essentiel est justement de permettre à l'industrie française d'exporter et de fournir le marché intérieur, et donc pour cela de faire les investissements nécessaires. Alors le budget actuel, d'une part, ne prévoit rien en ce qui concerne un soutien des investissements, et de l'autre, prévoit toute une série de mesures qui sont indiscutablement décourageantes pour l'économie française.
Ce que l'on entend ici, c'est qu'Ambroise Roux aussi compte sur le soutien de l'État pour permettre à de grands groupes industriels de monter en puissance, Pierre Lamarre.
Mais oui, enfin, chez Alstom, ce n'est pas nouveau. Alstom profite du réarmement, entre guillemets, de la France en 1938, en se mettant à nouveau au service de la préparation de guerre. Ils fabriquent notamment des tourelles de mémoire. Et ensuite, on attend du marché national EDF au moment de la nationalisation d'EDF. On attend là véritablement de nouvelles commandes puisqu'il y a un programme d'hydroélectricité qui va avec les barrages qui vont qui va se déployer. Donc la culture d'Alstom, on attend beaucoup des marchés publics et ce sera la même chose avec le programme nucléaire, ce sera la même chose avec les commandes de TGV. Finalement Alstom va sortir un peu de cette logique de la commande publique avec la crise qui va arriver dans les années 1980, où là, véritablement, Alstom va chercher de manière effrénée des marchés d'exportation.
Alors, on va y venir à cette crise des années 80, mais d'abord, Patrick Fridançon, un mot sur Ambroise Roux, qui était un proche de Georges Pompidou, et c'est ce qui lui a permis d'obtenir un certain nombre de quasi-monopoles.
Oui, un mot sur sa formation. Lui, ce n'est pas un Xpon, c'est quelqu'un qui a aussi fait Supélec.
Donc, ça n'est pas qu'un polytechnicien.
Ça n'est pas qu'un polytechnicien du corps des ponts. Mais c'est quelqu'un qui a aussi fait Supélec, c'est-à-dire qu'il a une vraie connaissance de la branche. Mais pour autant, c'est un des grands cerveaux du patronat français. C'est-à-dire que effectivement, il partage avec Georges Pompidou l'idée qu'il faut des champions nationaux, ce qui va être une idée qu'on va trouver au Japon ou en Corée, par exemple. Mais il a, à l'égard de l'État, une position qui est que l'État doit être au service de ses champions nationaux, mais que ces champions nationaux doivent eux-mêmes faire la pluie et le beau temps en politique. Alors le résultat, c'est que lorsque Georges Pompidou, dont il est très proche, meurt en 1974, eh bien la droite au pouvoir se divise. Et Ambroise Roux choisit le mauvais cheval, il choisit Jacques Chaban-Delmas. Et le résultat est que, comme Valéry Giscard d'Estaing gagne les élections, Ambroise Roux va se trouver beaucoup moins près des pouvoirs publics qu'il l'a été sous Pompidou. Il est un peu en pénitence et il va passer une grande partie de son temps à attaquer la gauche du programme commun qui monte aux élections, même si elle échoue en 1978, et la gauche, d'une certaine manière, et pour d'autres raisons aussi, le lui rendra bien, et la Compagnie Générale d'Électricité sera nationalisée en 1980-1982, et Ambroise Roux ne sera plus jamais en entreprise. Mmh. Il sera dans des associations patronales, mais on a là, et je partage tout à fait votre point de vue, un équivalent moderne de Auguste de Teuf, c'est-à-dire quelqu'un qui a un horizon à la fois politique et économique. Ce qui m'a surpris toutefois dans le son que vous avez donné, c'est qu'il parle du marché intérieur, alors que, comme Pierre Lamarre l'a souligné, Thomson est aussi international. Il m'a semblé que s'il parlait de marché intérieur, c'était parce que ça faisait bien sur le plan politique.
Parce qu'il était effectivement vice-président du Conseil national du patronat français à ce moment-là. Et ce que l'on comprend, Patrick Fridançon, c'est que les difficultés commencent pour Alstom dans les années 70 et vont s'aggraver dans les années 80. On en parle dans un instant.
Shuffling madness of the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels the piston scraping, steam breaking on his brow. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees.
Locomotive Breath, le souffle de la locomotive par le groupe britannique Jethro Tull. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et les historiens Patrick Fridançon et Pierre Lamarre sont toujours avec nous pour évoquer la mémoire industrielle du géant Alstom. Alors nous nous sommes arrêtés à la fin des années 70, au moment où les difficultés commencent pour Alstom, qui doit faire face à une concurrence qui est devenue mondiale. Patrick Fridançon, expliquez-nous un petit peu la situation d'Alstom au début des années 80.
À vrai dire, les difficultés ont commencé avant, un peu avant 1980, d'où, entre autres, la grève de 1979. Mais là, il y a toute une série d'éléments qui jouent. Il y a d'abord le fait que l'Europe, à la suite de négociations mondiales, ouvre ses frontières douanières, donc ouvre à la concurrence étrangère, et que sur les marchés étrangers eux-mêmes, il y a de nouveaux concurrents qui sont pour l'essentiel des concurrents asiatiques, ou bien des formes renouvelées de la concurrence américaine, et bien entendu les Allemands, qui sont dans le paysage depuis le 19e siècle, comme les origines d'Alstom, sont là aussi présents. Donc trouver des clients, c'est difficile. Ça veut dire que Thomson est à la recherche soit de nouvelles fusions, soit si ses propres activités ne sont pas suffisamment rentables, de cession.
Et c'est dans ce contexte, Patrick Fridançon, qu'Alstom connaît alors l'une des plus grandes grèves de son histoire. Vous l'avez dit, 2000 ouvriers du site de Belfort-Débreuil le 27 septembre 1979. Écoutons leurs représentants syndicaux. Ce sont des témoignages recueillis à l'époque par France Inter.
Les travailleurs qui, depuis des années dans cette usine de Belfort, ont démontré déjà très longuement que c'était des gens très patients, des gens calmes. Et ça, c'est pour l'ensemble du personnel. Et ils ont fait la démonstration, enfin, ils en ont déduit plutôt que malgré leur calme et tout, ils accusent un retard, un très net retard par rapport à tous les autres établissements de la région. Je prends l'exemple du 13e mois. Dans cette grande entreprise que nous sommes à l'Alstom Belfort, nous sommes les seuls ici dans la région à ne pas avoir ce 13e mois. Et on peut dire que cette prime de fin d'année, ce 13e mois, tient très à cœur au personnel de cette usine.
J'ai jamais vu un mouvement avec les cadres techniciens, ingénieurs qui sont vraiment avec l'ouvrier. Et ça, j'ai jamais vu. Et aussi la solidarité des gens de Belfort et des environs. Ça, je ne l'ai jamais vu.
Vous vous sentez vraiment soutenu par la population ?
Oui, on est vraiment soutenu. Il y a encore tout à l'heure deux personnes qui sont venues, deux vieilles personnes qui donnaient 10 francs pour la solidarité. Ben, je trouve que c'est joli.
Donc vous, vous êtes prêt à tenir encore longtemps ?
Ah oui, oui, si les gens nous aident, espérons-le, oui, oui. Parce que ce serait moche de lâcher un mouvement parti comme il est parti, puis rien à voir.
Voilà, une archive du 12 octobre 1979. Quel est le point de départ de la grève de Belfort, Pierre Lamarre ?
La grève de Belfort, c'est un coup de grisou, hein. Il y a toujours un facteur déclenchant, il y a toujours une étincelle. Mais comme l'a souligné Patrick Fridançon, il y avait déjà des tensions sur le site de Belfort. On a entendu ce témoignage tout à l'heure. En réalité, les relations sociales étaient déjà tendues avec un nouvel arrivant qui est Bernard Dufour, qui est le directeur qui arrive en 1976 et qui, à son arrivée, commet la maladresse de s'adresser d'abord au syndicat des cadres avant de s'adresser au syndicat ouvrier. Donc, les relations partent mal, elles se tendent et le coup de grisou, c'est la volonté de fêter le centenaire, hein, nous sommes en 1979, l'arrivée à Belfort sur le territoire, c'est 1879, on veut fêter ce centenaire, l'entreprise est quand même, on va dire, à une image de modernité, c'est le TGV, les îlots conventionnels dans les centrales nucléaires, et on fête ce centenaire avec une médaille qu'on offrira aux ouvriers, avec le choix d'une montre automatique, d'un stylo ou d'un bloc de stylo ou d'une bonne bouteille de cognac, c'est l'expression qui était employée à l'époque.
Et ça ne passe pas.
Et ça passe pas. Véritablement, à Belfort, c'est la grève de la dignité. Cette volonté de fêter ce centenaire avec comme cela, ça ne peut pas passer. Et Poniatowski doit arriver pour présider les cérémonies, c'est le délégué spécial de Valéry Giscard d'Estaing. Et le vendredi, le jeudi, 90% des ateliers se mettent en grève. Et c'est le début d'une très longue grève de 2 mois. Qui va se terminer aux alentours du 28 novembre qui va être médiatisée puisque c'est la grande grève des années 70, 3 semaines fortes avec un soutien ce n'est pas la première fois que la ville de Belfort soutient comme ça une grève, hein. Le conseil municipal s'était déjà réuni devant la maison du peuple en 1955 pour soutenir une grève dure également. Donc il y a véritablement une synergie entre le site d'Alstom et le territoire de Belfort.
Et en même temps, est-ce qu'on peut dire que cet épisode, Pierre Lamarre, alors il faut préciser que les ouvriers obtiennent des hausses de salaire, une plus grande reconnaissance, mais est-ce que cet épisode ne marque pas le début d'un désamour entre la direction et le site de Belfort et d'une plus grande défiance ?
Alors, effectivement, on va se méfier de ce site turbulent, hein, puisque ça n'était pas la première grève, mais là, en plus, toute la France s'en est emparée. Et la direction va se méfier de ce site de Belfort. Et tous les arbitrages de restructuration qui vont avoir lieu à partir de ces années-là ne seront jamais très favorables au site de Belfort. Donc on peut dire, sans véritablement le prouver, qu'il y a là véritablement une méfiance qui s'installe entre Paris et Belfort.
Et en même temps, il faut dire, Patrick Fridançon, que le groupe multiplie les difficultés à cette période, et en particulier au début des années 2000. Le groupe est au bord de la faillite quand un nouveau dirigeant, Patrick Cron, arrive aux commandes. Ça, c'est en 2003. Et il y a à ce moment-là un temps qui s'ouvre, qui est celui des grandes transformations pour essayer de sauver le groupe, Patrick Fridançon.
Bah, il faut dire que la situation financière en 2003 est parfaitement désespérée. Elle est le résultat des grandes manœuvres industrielles des directions antérieures, puisque en 1976, Alstom avait été acquéreur des chantiers de l'Atlantique pour les revendre un peu plus tard, qu'ensuite Alstom avait fusionné avec le General Electric anglais, qui est une firme différente du General Electric américain, puis avait divorcé. Et depuis 1998, pour la première fois, Alstom était indépendante. Indépendante de tout actionnaire étranger, et gérée par elle-même et non plus co-entreprise. Mais un certain nombre de choix industriels qui sont faits sont tout à fait redoutables. Et Patrick Cron, qui est un polytechnicien dans le meilleur style Alstom, va faire appel à l'État pour se sortir de ces difficultés. Et l'État va devenir sous Chirac, et je pourrais même dire en plus sous Raffarin, donc ces deux grands libéraux, il va devenir une entreprise ayant, avec l'accord de Bruxelles, 21% de son capital, qui va être un capital d'État.
Et c'est un grand bouleversement pour Alstom, puisque les effectifs du groupe passent de 110 000 à 65 000 personnes, et les activités sont recentrées sur le transport ferroviaire et la production. C'est une thérapie de choc qui fait ses preuves, Patrick Fridançon, puisque le groupe va connaître dans les années qui suivent un redressement assez spectaculaire.
C'est un redressement spectaculaire, mais il y a encore l'énergie, l'activité énergie dans le groupe. Ce n'est que un peu plus tard, en gros 10 ans plus tard, que l'activité énergie va disparaître. Mais effectivement, j'ai moi-même entendu Patrick Cron parlant dans un séminaire de recherche et faire l'éloge de sa propre gestion, et montrant comment il avait fait un redressement spectaculaire, pour ne donner qu'un exemple, parce qu'il y avait bien entendu la réduction des effectifs que vous avez mentionné, mais il y avait aussi la recherche de relais de croissance. Et par exemple, il avait racheté, plutôt Alstom avait racheté avant lui, mais c'est lui qui l'avait fait prospérer, la société italienne, filiale de Fiat, qui était la conceptrice des trains pendulaires, qui sont, comme on le sait, la grande réussite italienne à l'heure actuelle. Mmh. Eh bien, Patrick Cron en a profité. Et la réussite a amené la vente des actions de l'État à une grande entreprise du BTP, des télécoms et aussi de la radio télé, de la télévision, c'est-à-dire Bouygues. Donc, on a un Thomson appuyé sur Bouygues, et ce Thomson va affronter les années 2010, mais avec les mêmes problèmes liés à la mondialisation.
Et surtout les problèmes liés à la crise financière, puisque c'est effectivement la crise qui va rattraper Alstom, et à ce moment-là, c'est surtout la branche énergie qui va trinquer, Patrick Fridançon.
Alors la branche énergie va trinquer, et à ce moment-là va se poser la question du quoi faire. Et là, on retrouve l'histoire dans la longue durée, c'est-à-dire que Patrick Cron va faire affaire avec le General Electric américain, c'est-à-dire l'entreprise qui est là à l'arrière-plan depuis le temps de Thomson, c'est-à-dire 1919. Pendant le même temps, il y a une offre concurrente qui est européenne, qui est menée par Siemens, renforcée par les Japonais de Mitsubishi Heavy. Et stupeur absolue, le gouvernement français, c'est-à-dire un gouvernement socialiste, va dans un premier temps, favoriser obliquement, non sans conflit interne, la solution de General Electric. Et puis, lorsque le ministre des Finances change, il y a un ministre des Finances qui s'appelle, c'est un jeune ministre des Finances, Emmanuel Macron, il va confirmer le choix de General Electric. Et donc, Belfort devient province américaine.
Alors justement, Pierre Lamarre, quelles conséquences sur l'emploi, en particulier à Belfort, de cette cession à General Electric de la filière énergie d'Alstom en 2014?
Eh bien écoutez, ça va être des plans de licenciement sur plans de licenciement. Il y avait 4300 employés à peu près en 2015. General Electric, dans la partie énergie, General Electric va supprimer à peu près 1200 emplois. Aujourd'hui, cette partie-là ne compte plus que 3500 personnes. Je rappelle que le site au complet, ils sont à peu près 400 tractions, c'est-à-dire les locomotives, les motrices. Donc aujourd'hui, à Belfort, l'ensemble des effectifs énergie plus traction, c'est moins de 4000 personnes. Et dernièrement, on parle encore de supprimer dans une partie de cette entité énergie 240 emplois à Belfort. Les politiques locaux sont vent debout avec sans les trop de la présidente de région Marie-Guide Dufay qui en appelle au président Macron justement. Mmh. Tout à l'heure, il était question.
C'est une vente, effectivement, qui continue à poser un certain nombre de questions. Alors, on arrive au terme de cette discussion. Un dernier mot, peut-être, Patrick Fridançon, sur ce rejet en 2019 par la Commission européenne de la proposition de fusion entre Alstom et son concurrent allemand Siemens. Rejet au nom du respect de la concurrence, mais depuis, la Commission a autorisé le rachat par Alstom du Canadien Bombardier Transport. Alors, voilà, quelle leçon aujourd'hui, est-ce qu'il faut tirer de ces péripéties et de ces difficultés et que reste-t-il aujourd'hui de la puissance industrielle d'Alstom, Patrick Fridançon?
Alors, il reste très clairement l'activité de transport qui est encouragée par le rachat par Alstom des activités de transport de la grande firme canadienne Bombardier dont l'activité de transport était en crise. Mais je voudrais aller au-delà sur deux points. D'une part, effectivement, il y a eu un changement de religion de la Commission de Bruxelles. Et c'est un changement très important qui consiste à dire que la concurrence peut être compatible avec le maintien en vie de champions européens, parce que il y a l'idée que une Europe qui serait réduite à des activités de service, avec une agriculture de surcroît en grande conversion, serait une Europe en grande difficulté.
Alors ça, c'est le premier point. Pardon, Patrick Fridançon, on arrive vraiment à la toute fin de l'émission. Je vous laisse développer très rapidement. Vous avez quelques secondes pour développer votre second point, Patrick Fridançon.
Ben, mon second point est simple. Dans un monde qui est voué au développement durable et au changement climatique, le choix de l'activité de transport pour ce qui reste d'Alstom est un choix rationnel. Mais ce que nous avons vu avec la pandémie, c'est-à-dire le fait que l'activité de transport public qui est celle d'Alstom peut être concurrencée soit par le télétravail, soit par la pandémie elle-même, fait que ce qui paraissait il y a encore quelques mois comme une option de très long terme logique, et maintenant entouré d'un gigantesque point d'interrogation.
Et remise en question. Un grand merci à Patrick Fridançon et Pierre Lamarre de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On mettra les références de vos ouvrages, le dictionnaire historique des patrons français pour Patrick Fridançon et 130 ans d'aventure industrielle à Belfort pour Pierre Lamarre sur le site franceculture.fr. Tout de suite, c'est l'heure du journal de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Un journal présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Avec plus de 30% de la croissance et de la population mondiale, le nouvel accord commercial en Asie du Sud-Est instaure la plus grande zone de libre-échange de la planète. Un succès pour le multilatéralisme à la chinoise.
Eh bien Tiffaine, c'est déjà un rayon de lumière et d'espoir au milieu des nuages, disait le Premier ministre Li Keqiang à propos de ce premier grand accord de libre-échange depuis 5 ans, ce RCEP, Partenariat Régional Économique Global, qui rassemble les 10 pays de l'ASEAN, la zone économique de l'Asie du Sud-Est, et les 5 grandes économies du Pacifique, tombe à pic en effet pour ces tigres et dragons économiques, alors que pour certains, des années de croissance ont été balayées par la crise sanitaire. La quasi-suppression des droits de douane sur 80% des produits échangés servira à la relance post-Covid. L'accord jouera ainsi le rôle classique de booster de croissance avec un gain de PIB de 0,2% pour les États membres et un ajout d'environ 180 milliards de dollars à la valeur des échanges mondiaux. Alors s'il est excessif d'en conclure qu'il va bouleverser les réalités du commerce mondial, prévient Sébastien Jean dans The Conversation, il n'en reste pas moins le plus grand de l'histoire en termes de surface.
Du beurre dans les épinards donc, mais aussi de l'huile dans les rouages de l'intégration régionale.
Oui, ce sont 50 à 60% du commerce des membres de l'ASEAN qui est déjà intra-régional, souligne Sébastien Jean, et bien plus qu'un accord de libre-échange, écrit cette fois Mathilde Lemoine dans Les Échos, le RCEP qui regroupe pour la première fois les 2 premières économies mondiales hors États-Unis, Chine et Japon, va accélérer le développement d'infrastructures, des télécoms et des investissements. C'est même un pas vers l'autonomisation de l'Asie, poursuit Mathilde Lemoine, puisque l'accord privilégie explicitement les entreprises locales plutôt qu'à américaine ou européenne, et poursuit ainsi la stratégie de régionalisation des chaînes de valeur qui avait déjà permis aux pays ASEAN d'augmenter leur part dans les exportations mondiales. Et la Chine, qui n'a que rejoint le processus initié par l'Indonésie il y a 8 ans, y occupe désormais en effet un rôle central. Elle complète sa gamme d'accords et de dispositifs de financement régionaux, l'Organisation de coopération de Shanghai, la Banque asiatique d'investissement, rappelle Emmanuel Linco et Emmanuel Véron dans The Conversation, et elle trouve aussi un nouveau relais pour ses routes de la soie en direction du sud-est asiatique.
Peut-on alors parler, Xavier, d'un consensus de Pékin ?
Eh bien, l'expression est surtout utilisée en diplomatie, mais elle résumerait bien le fonctionnement de cet accord particulier, à la fois immense en surface, dit Sébastien Jean, et nettement moins ambitieux que ses concurrents, avec une baisse des droits de douane beaucoup moindre, hein, 92% contre 99% généralement, un accord empli de recommandations plutôt que d'obligations formelles, remarque encore le Asia Society Policy Institute. Cette stratégie de trou dans la raquette permet le plus large consensus, tout en excluant certains secteurs stratégiques, l'agriculture, le commerce en ligne, les véhicules électriques, ce dernier à la demande de la Chine. Il faut dire qu'avec presque 2/3 du PIB régional, elle peut facilement organiser ce multilatéralisme est-asiatique. Non seulement Pékin multiplie déjà les zones économiques spéciales sans frais de douane, elles sont plus de 2500, mais elle poursuit aussi depuis 10 ans une stratégie d'influence normative, discrète et efficace, beaucoup plus de normes que l'Union européenne, qui s'applique moins par obligation que par la masse même du marché chinois, à la fois donc puissance gravitationnelle et muraille de Chine déguisée, disait le directeur général de l'AFNOR déjà en 2012, la normalisation est l'outil caché de la stratégie chinoise.
Alors relancer l'Asie ou distancer les États-Unis, l'accord est aussi un coup de semonce pour le multilatéralisme mondial.
Oui, bien sûr, dans le contexte du retrait américain depuis 2017 de la région, tout le monde l'a souligné, la Chine cimente sa position économique et diplomatique, dit Reuters. Les États-Unis en sont exclus et pour la première fois, les grands rivaux régionaux, Japon, Corée du Sud et Chine, sont dans le même accord. Alors même si ni l'Inde ni Taïwan n'y participent, le RCEP est un signal d'alarme pour les États-Unis, dit encore l'Asia Society Policy Institute. L'Asie, c'est en effet 50% du PIB mondial et Joe Biden a déjà prévu de proposer aux Européens une nouvelle feuille de route pour que les 50% restants ne soient pas abandonnés à la Chine ou à d'autres qui, dit-il, dictent les conclusions parce qu'ils ont le champ libre. Plus encore, ce partenariat est un exemple réussi de régionalisation de l'économie, écrit dans Les Échos Jean-Louis Guigou. Il prépare le monde post-Covid contre le dogme des chaînes de valeur globale, poursuit-il. La proximité est l'atout clé de la baisse des coûts, avec une réactivité de l'offre, une réduction des risques monétaires. Bref, dans ce grand compactage mondiale des chaînes de valeur par quartier d'Orange verticaux, la méga région Afrique Méditerranée Europe a pris du retard et la régionalisation serait la solution plutôt que le rapatriement forcé. Une solution donc qui permet de sortir des injonctions nationalistes et une piste pour le futur partenariat stratégique UE-Afrique, cette fameuse Eurafrique dont les discussions débutent cette année.
Merci beaucoup Xavier Martinet et merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Nasser Moussaoui et Florent Bujon. Demain, deuxième épisode de notre série sur les géants du CAC 40, on se demandera si Danone est le Janus de l'industrie agroalimentaire.